la une en Israël, bien sûr, et vous en êtes rendu compte dans le journal. Il va être question de la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken dans le pays où coule le lait et le miel. Élise, je vous laisse analyser tout cela avec votre invité.
Je suis ravie d'être en ligne ce matin avec Daniel Haïk, analyste i24 News. Bonjour Daniel.
Bonjour Lise, Boker Tov.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, le bilan de cette visite d'Anthony Blinken en Israël, est-ce qu'on comprend que les États-Unis craignent plus que tout une guerre régionale au Moyen-Orient ?
Oui, effectivement, on peut dire que c'est la crainte principale des Américains, même si on a le sentiment que Anthony Blinken s'est plus focalisé sur l'axe Gaza que sur l'axe nord, je dirais. Peut-être que c'est parce que, eh bien, du côté du nord du pays, il y a Amos Hochstein, qui est le proche conseiller de Joe Biden, l'homme qui murmure aux oreilles de Joe Biden, qui est directement impliqué dans les tractations visant à tenter de parvenir à un accord diplomatique entre Israël et le Hezbollah. On a le sentiment que Anthony Blinken, lors de sa visite hier, eh bien, s'est surtout focalisé sur l'avenir de la bande de Gaza, la volonté, par exemple, exprimée des Américains de permettre à la population palestinienne, civile palestinienne, de remonter du sud vers le nord, une demande américaine exprimée à Israël. Israël, pour l'instant, ne peut pas satisfaire pour des raisons évidentes de sécurité. Et on a vu que, effectivement, ce qui semblait préoccuper d'une certaine manière le secrétaire d'État américain, c'était plutôt l'axe Gaza, la perspective d'après-guerre. Il a parlé d'une possibilité de reprendre pour parler en vue d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite, mais une normalisation qui serait conditionnée par l'acceptation par Israël du fameux principe de deux États pour deux peuples, ou peut-être en étant plus nuancé, le simple principe pour Israël, l'acceptation pour Israël de reprendre des négociations en vue de la création d'un État palestinien, ce qui là aussi semble assez utopique de la part des Américains. On le voit effectivement, l'administration Biden continue à soutenir presque 100 jours après le début de la guerre. Elle continue à soutenir l'État d'Israël. Elle ne réclame pas le cessez-le-feu, c'est un point extrêmement important, mais en même temps, elle commence à poser des conditions qui risquent de mettre en difficulté le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Et ces conditions, elles sont bien entendu liées au passage qui ne vous a pas échappé de l'année 2023 à l'année 2024. Et l'année 2024 aux États-Unis, c'est une année électorale. Et Joe Biden, l'administration américaine, est obligée de tenir compte de l'aile gauche du Parti démocrate qui commence d'une certaine manière à en avoir un peu assez du soutien inconditionnel de Biden à Israël et qui voudrait voir le président américain être plus nuancé face à l'État d'Israël et beaucoup plus proche, on va dire, de la ligne, on va dire, de centre-gauche du Parti démocrate actuel, qui est de ne pas soutenir Israël d'apporter auprès de la bande de Gaza et surtout aux problèmes humanitaires qui règnent dans la bande de Gaza.
Alors justement, Daniel, il y a deux points sur lesquels Anthony Blinken a insisté. C'est le moins possible de pertes civiles, puisqu'il a dit que le bilan était déjà trop lourd, et le retour des Palestiniens déplacés.
Oui, effectivement, et c'est ce qui préoccupe, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui préoccupe les Américains aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, clairement, ce sont des messages qui proviennent de l'aile gauche du Parti démocrate. Il faut essayer de mettre fin à cette situation de précarité de près de 2 millions de Gazaouis, et d'essayer de leur permettre de reprendre des conditions de vie plus ou moins normales dans la mesure du possible, et ça va être extrêmement difficile. On le comprend bien lorsque l'on voit ce qui se passe dans le nord et le centre de la bande de Gaza. On comprend que le retour de réfugiés, en tout cas le retour massif de réfugiés de Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza n'est certainement pas pour demain. Et là-dessus, il risque d'y avoir des grincements de dents entre Jérusalem et Washington.
Alors, tout de même, un soutien important aussi sur un autre sujet, la plainte jugée intolérable pour génocide à la Cour internationale de justice de La Haye.
Oui, effectivement, vous faites bien d'insister sur ce point. C'était un des cinq points essentiel mentionné donc par Blinken lors de sa conférence de presse hier. C'est pas une véritable surprise que les Américains ne soutiennent pas ce type de démarche devant le tribunal international de La Haye. Mais effectivement, comme on s'approche de l'échéance, c'est demain que l'audience doit se tenir, eh bien là, clairement, le soutien inconditionnel des Américains à la position israélienne, c'est-à-dire qu'il est stupéfiant et incroyable de pouvoir considérer qu'Israël se livre à des actes génocidaires dans la bande de Gaza, eh bien aura un poids certain dans les délibérations de ce tribunal, même si on connaît, même si on sait que ce tribunal est traditionnellement, on va dire assez anti-israélien et certainement pas proche des positions des États-Unis, mais il est clair que le positionnement très clair de l'administration Biden peut-être nuancer, on va dire, une éventuelle condamnation de l'État d'Israël à la suite de l'appel du recours déposé par l'Afrique du Sud.
Alors justement, ce matin, on apprenait que Ronen Bar, le chef du Shin Bet, avait recommandé au Premier ministre et aux autorités judiciaires israéliennes de présenter au tribunal de La Haye les preuves des liens entre le Hamas et l'UNRWA pour gêner l'ONU, dont ce tribunal de La Haye est l'une des institutions. Qu'est-ce que vous en dites, Daniel? Ça vous semble une bonne stratégie?
Écoutez, d'abord, il faut savoir qu'on n'est pas tellement habitué à ce genre de spectacle, c'est-à-dire de voir Israël. Oui, Israël est régulièrement mis en cause par les tribunaux internationaux, mais on a très peu l'occasion de voir Israël se défendre devant ces tribunaux. À plus forte raison, on a très peu l'occasion de voir Israël nommer un juge à l'intérieur donc de ce tribunal qui doit juger. Il s'agit de l'ancien président de la Cour suprême, à Aaron Barak. Et là, donc, effectivement, tout cela est le résultat d'une démarche assez sophistiquée déposée par l'Afrique du Sud, qui a bien géré la situation de son point de vue en essayant de coincer l'État d'Israël et d'essayer d'obtenir une décision intérimaire qui pourrait bloquer, justement, arrêter les combats dans la bande de Gaza le plus rapidement possible. Alors, c'est ce que va essayer de faire, va essayer de contrer les Israéliens. Et pour contrer ce genre de démarche, pour contrer un éventuel décret intérimaire qui obligerait Israël à arrêter les combats, eh bien, effectivement, il faut déployer l'artillerie lourde et prouver donc par tous les moyens le comportement du Hamas dans la bande de Gaza, revenir également sur ce qui s'est passé le 7 octobre en expliquant qu'on ne peut pas déconnecter l'activité israélienne de ces 90 derniers jours de ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous savez, c'est difficile, on n'a pas véritablement de repère de précédent pour savoir comment la Cour internationale de La Haye statuera dans ce cas précis. On a le sentiment qu'en général, elle est partie prenante contre le positionnement d'Israël. Mais d'une certaine manière, je lisais des commentaires de juristes au sein du ministère de la Justice israélien. On se dit relativement qu'il y a une chance. Peut-être aussi grâce à la présence de cette personnalité reconnue internationalement qu'est le professeur Aaron Barak. On le sait, très critiqué en Israël. Mais au niveau de la communauté internationale, il a un prestige incontestable. Et donc, cela peut-être permettre à Israël de se sortir à l'arraché de cette mauvaise passe. Je dois tout de même préciser, Lise, que cette démarche, elle est tout de même assez surprenante. Parce que je vous rappelle que pendant les longs mois de contestation autour de la réforme judiciaire, on avait dit que la Cour suprême, l'autonomie de la Cour suprême, telle qu'elle avait été façonnée par le juge Aaron Barak et par ses successeurs, eh bien, permettait justement d'empêcher Israël d'être traduite devant la Cour pénale internationale. Et d'une manière ou d'une autre, on disait, à partir du moment où la Cour suprême cautionne telle ou telle action de l'armée israélienne, eh bien, on peut dire que cela est conforme au droit international. Et donc, ça invite des recours devant la Cour pénale internationale. Ce que l'on voit avec le 7 octobre, c'est que, de manière tout à fait paradoxale, alors que c'est Israël qui est l'agressé, eh bien, on voit la Cour pénale, ce n'est pas la Cour pénale internationale, hein, c'est le tribunal international de l'Haïk, il faut faire la distinction, ce n'est pas la même chose au niveau des statuts. Eh bien, le tribunal international de l'Haïk est utilisé par certains pays comme l'Afrique du Sud pour attaquer Israël, et donc quelque part, où est le prestige de la Cour suprême? Pourquoi ce prestige ne se manifeste pas? Alors peut-être que donc il se manifestera demain lors du verdict de la Cour suprême à travers la présence de la personnalité de d'Aaron Barak.
Merci beaucoup Daniel Haïk d'avoir été avec nous et pour cette analyse ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes journaliste pour i24 News. Bonne journée à vous et à très vite.
Bonne journée à vous et aux auditeurs de Judaïka.